gloire à notre Dieu. Eh bien, la série d'études sur la thématique de l'Église se poursuit dans la grâce et la miséricorde du Seigneur à l'Église baptiste de l'Oratoire. Nous étudions dans le cadre de la série les bénédictions spirituelles de l'Église et les bénédictions que donne l'Esprit Saint, hein, les bénédictions obtenues, reçues de Dieu dans l'Esprit Saint. C'est ça le sens du mot spirituel ici, hein. C'est pas spirituel par opposition à matériel, comme je l'avais si bien expliqué et à un moment donné dans la congrégation. Hein, nous avions déjà regardé comme première bénédiction l'élection de l'Église. L'Église est élue. Nous sommes choisis, nous sommes des élus de Dieu. Nous avions déjà regardé la bénédiction de l'adoption, c'est-à-dire que l'Église est adoptée par Dieu. Nous avons regardé la bénédiction de la rédemption en duplex avec la bénédiction de la rémission des péchés. On peut les séparer comme étant troisième, quatrième bénédiction. On peut en faire une. Et tout dépend de la méthodologie choisie par chacun. Et pour vous faciliter la saisie, la compréhension, moi je les dissèque, je les partage, je les sépare plus ou moins. Une fois de temps en temps, je les sépare. D'autres fois, je les donne en jumeaux, en jumelles, en duplex. La rédemption, c'est-à-dire nous sommes rachetés par le sang de Jésus, par le sang de l'agneau, immolé dès avant la fondation du monde. Et la quatrième bénédiction, si nous voulons les séparer, donc, c'est la rémission ou le pardon de nos péchés. Tout cela fait partie des bénédictions, fait partie des bénédictions que nous obtenons en Jésus-Christ. Il nous restera après cela deux autres bénédictions à regarder sur un total de six et que nous trouvons à même le passage étudié, à savoir Éphésiens chapitre 1er, versets 3 à 14. Et Saint Paul, au verset 3, nomme, qualifie très clairement les choses que je viens de vous nommer là, et comme étant des bénédictions spirituelles, quand il dit, béni soit Dieu, au verset 3, Éphésiens 1er, le verset 3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituel dans les lieux célestes en Christ. Et remarquez la présence d'un point d'exclamation après en Christ. Donc, ça veut dire qu'on élève la voix, hein? L'accent, le ton, eh bien, est exaltant, est à l'émerveillement. Le ton est au triomphe et à la victoire, à la louange. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes en Christ. Mais c'est encore plus fort que cela, mais vous comprenez l'idée d'attirer votre attention sur eh bien, la présence du point d'exclamation et, et qui, après, eh bien, cette doxologie, hein, cette doxologie de Saint Paul, cette doxologie paulinienne. Alors voilà, frères et sœurs, par rapport à la dernière bénédiction vue, que nous avons vue mercredi dernier, je disais, je fais un petit rappel, un résumé, un récapitulatif de la dernière bénédiction considérée mercredi dernier, c'est-à-dire la rémission des péchés. Je disais que Jésus-Christ a lavé nos péchés, hein, et il a balayé nos péchés. Jésus-Christ a lavé nos échecs spirituels. Il a balayé nos échecs spirituels. Hein? Il l'a fait par son sang, dans son sang, le sang de l'Alliance. L'Alliance quant au salut, l'Alliance quant à la grâce du salut. Donc, cela veut dire que nous sommes pardonnés en Jésus-Christ. Le sang du Christ suffit pour que le Père nous pardonne, eh bien, nos péchés. Et quand je disais cela, j'avais fait remarquer que le fait que nous sommes pardonnés ne veut pas dire que nous ne pécherons plus. le fait que nos péchés sont lavés, sont balayés, que nous ne péchons plus, il nous arrivera, étant encore dans ce corps de péché de monde, de péché, il nous arrivera de pécher par accident, hein, péché accidentel. Et quand cela sera le cas, eh bien, nous en connaîtrons les conséquences. Nous serons châtiés. Une manière de dire que nous n'avons pas à abuser de la grâce de Dieu, à nous complaire dans le péché, hein, c'est comme pour me lancer, pour vous lancer une mise en garde, eh bien, sur l'importance de faire attention au péché, de résister au péché, de résister au diable, afin qu'il fuit loin de nous. Hein. Mais et j'avais dit que nos péchés ont un effet profond sur notre croissance spirituelle. Comme conséquence, nos péchés ont un effet sur notre utilité spirituelle. C'est-à-dire que le péché nous empêche d'être sel de la terre. Le péché nous empêche d'être lumière du monde. Le péché bloque notre communion avec Dieu. Autant de conséquences. Le péché fait obstacle à nos prières. Alors, autant de raisons, non seulement par amour pour Dieu, de nous abstenir du péché, tout en étant pardonnés de nos péchés, tout en ayant l'assurance du pardon originel et du pardon quotidien, mais il nous faut être prudents. Il nous faut faire attention, il nous faut prier pour la sainteté, la consécration et une vie juste, une vie sainte, une vie de justice et de sainteté, une vie de responsabilité et éthique à l'endroit de notre Dieu qui nous a sauvés, rachetés, élus, pardonnés, frères et sœurs, adoptés, frères et sœurs, mais bien-aimés en Christ. Pour aujourd'hui, voici la cinquième bénédiction que nous allons considérer. La cinquième bénédiction que nous allons considérer pour aujourd'hui, parmi les bénédictions spirituelles mentionnées par Saint Paul, c'est celle-ci. À savoir, nous avons la révélation de Dieu. Hein? N'oubliez pas, nous. L'élection, l'adoption, pas oublié, la rédemption, la rémission de nos péchés, ou bien le pardon. Et maintenant, la révélation. La bénédiction de la révélation. C'est-à-dire que Dieu nous dévoile son plan. Nous sommes au parfum du plan de Dieu. Nous sommes au fait du plan de Dieu. Ah, en tant qu'Église. Seule l'Église a ce privilège d'être au parfum du plan de Dieu. Dieu nous dévoile son plan. Dieu nous révèle son plan. Dieu nous donne accès à la connaissance de son plan de salut, de son plan éternel de salut. Nous connaissons le plan de Dieu, Dieu nous l'ayant fait connaître. Voilà la cinquième bénédiction. C'est écrit, cette bénédiction est mentionnée au verset 8 à 9 du passage en question jusqu'au verset 10. Et je commence avec le verset 7 pour vous la faire voir. En lui, nous avons la rédemption par son sang, en Jésus-Christ donc, la rémission des péchés, c'est réglé déjà, selon la richesse de sa grâce, verset 8, cette grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisant connaître, verset 9, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, gloire à notre Dieu, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, verset 10, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Saint Paul nous fait comprendre à la lumière de ce passage que non seulement Dieu, dans sa grâce, dans sa miséricorde, dans ses compassions, dans son amour, nous pardonne le péché qui corrompt ou qui a corrompu, qui déforme ou qui a déformé notre vie, mais également Dieu nous donne ce qu'il faut pour le comprendre lui, pour comprendre son plan et pour comprendre ce qu'il a fait pour nous, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et surtout, Dieu nous donne ce qui est nécessaire, non seulement pour comprendre qui il est dans la mesure du possible, dans la mesure de ce qu'il nous donne, mais également pour marcher. Il nous donne ce qui est nécessaire, ce qu'il faut pour marcher jour après jour dans ce monde d'une manière qui reflète sa volonté pour nous et d'une manière, donc, qui lui est agréable. Frères et sœurs, Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, donne à son Église généreusement à la fois ce qui est nécessaire pour comprendre sa parole et ce qui est nécessaire pour savoir, hein, je le dis d'une autre manière, pour savoir et également pour obéir à cette parole, frères et sœurs. Qu'est-ce que Dieu donne comme ça? D'abord, Dieu donne la sagesse. Le texte l'a dit clairement, il donne la sagesse, hein. La sagesse fait partie de ce que Dieu donne pour que nous saisissions son plan. Ah, l'intelligence fait partie de ce que Dieu nous donne pour appliquer la connaissance que nous avons de son plan. Gloire à notre Dieu. Saint Paul nous dit que Dieu nous dispense toute espèce de sagesse et d'intelligence selon la richesse de sa grâce. De la même manière que ce même Dieu nous a dispensé le pardon selon, toujours encore, la même richesse de sa grâce. Dieu donne grâce, Dieu donne sagesse, Dieu donne pardon, Dieu donne intelligence, Dieu donne héritage, Dieu donne la vie éternelle. Wow! Quel est ce Dieu, frères et sœurs, mes bien-aimés? Ailleurs, Saint Paul dira, 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 6, c'est une sagesse, je le lis lentement, c'est une sagesse que nous prêchons parmi les parfaits, sagesse qui n'est pas de ce siècle, c'est-à-dire qui n'est pas de ce monde, qui n'est pas d'hommes, des hommes, qui ne relève pas de la sagesse humaine, de la sagesse d'ici-bas ou de la terre, mais de la sagesse d'en haut. Sagesse qui n'est pas de ce siècle, ni des chefs de ce siècle, peu importe le nombre de doctorats qu'ils auraient dans ce siècle. Il ne s'agit pas de leur sagesse. Il ne s'agit pas de la sagesse de l'homme le plus savant que vous connaissiez, que vous puissiez imaginer, de la femme la plus savante, de doyen d'université le plus savant, d'une doyenne d'université la plus savante que vous puissiez vous imaginer. Et Saint Paul de rajouter, nous prêchons la sagesse de Dieu, mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, toute la question de avant les siècles, avant la fondation du monde, avant les temps éternels, gloire à Dieu. Cela ne date pas d'hier, cela ne date pas d'aujourd'hui, d'où la profondeur, d'où la richesse, d'où la valeur de ces bénédictions-là, frères et sœurs. Avant les siècles, Dieu avait prédestiné pour notre gloire. Et Saint Paul de rajouter en disant, Or, nous, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde. Hein, on parle ici d'intelligence. Mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. On est ensemble? Et Saint Paul de conclure le passage en question en disant, nous avons la pensée de Christ. Nous avons la pensée du Christ. L'Église a la pensée de son Seigneur. L'Église a la pensée de son Sauveur. Incrustée dans sa pensée, incrustée dans son âme, incrustée dans son cœur. Gloire à notre Dieu. Cela n'est pas étonnant puisqu'il est en nous, nous sommes en lui. Lui et nous, nous faisons qu'un. Nous avons revêtu sa nature. Il n'est pas étonnant que nous avons sa pensée, frères et sœurs. Notre Père céleste, l'oratoire, Église baptiste, notre Père céleste ne nous a pas simplement donné le strict nécessaire du pardon. Non. Son pardon, nous l'avons vu, est infini. Son pardon, nous avons vu, il l'a répandu sans mesure, abondamment sur son Église, sur ceux et celles qui mettent leur foi en Jésus-Christ. Nous avons dit que par là, nous avons l'assurance non seulement de la gloire éternelle à venir auprès de Dieu, mais également de la communion avec lui. C'est déjà tout, c'est déjà beaucoup. Mais dans la grâce de Dieu, dans la miséricorde de Dieu, dans la générosité de Dieu, dans la sagesse de Dieu, il n'y a pas que cela que l'Église ait reçu en bénédiction, frères et sœurs. Nous recevons de lui, ou alors l'Église reçoit aussi de lui la rédemption, certes, mais pour ce soir, l'Église reçoit de son Père éternel toute espèce de sagesse et d'intelligence. Ma mère ne savait ni lire ni écrire, mais à tous les jours, on pouvait voir que c'était une femme intelligente. À tous les jours. Mon père n'était pas un savant. Il savait à peine lire et écrire. Mais à tous les jours, tous ceux qui le côtoyaient, tous ceux qui étaient autour de lui, tous ceux qui étaient en contact, qui étaient dans son orbite, pouvaient savoir, pouvaient comprendre, pouvaient constater que c'était un homme d'une grande sagesse. Parce que ils ont reçu la sagesse et l'intelligence de Dieu. Prions, frères et sœurs, pour notre entourage. Qu'ils parviennent à cette sagesse, qu'ils parviennent au salut, et donc à cette sagesse que Dieu dispense avec ce salut, avec cette intelligence, frères et sœurs. Dans l'original, le terme Sophia, qui parle de sagesse, qui décrit la sagesse, eh bien, évoque la compréhension des choses profondes. Être sage, c'est comprendre les choses profondes. Ah, il y a des choses en surface dans la vie, il y a des choses profondes dans la vie. Les choses en surface, la plupart du temps, plus d'un les saisissent, les comprennent avec toute l'imperfection que ça comporte, bien entendu. Mais les choses profondes, les choses éternelles, les choses spirituelles, les choses de Dieu, les lois de Dieu, la volonté de Dieu, la personne de Dieu, l'amour de Dieu, la générosité de Dieu, ça prend la sagesse que donne l'Esprit de Dieu pour les saisir et les comprendre. Ça prend l'intelligence que donne l'Esprit de Dieu pour les saisir et les comprendre. Ça prend le sceau de l'Esprit. Ça prend l'œuvre de l'Esprit. Ça prend le ministère de l'Esprit. Ça prend l'action et l'onction de l'Esprit pour comprendre les choses profondes. Et c'est ce que vous détenez ce soir. C'est ce que vous avez ce soir. S'il y a des gens qui pensent que c'est 1 million de dollars qui est important dans la vie, ils se trompent. La sagesse et l'intelligence pour comprendre les choses profondes, c'est ce que l'Écriture donne avec Jésus-Christ, avec la vie éternelle, comme étant la chose la plus importante, n'en déplaise aux grands de ce monde, n'en déplaise aux matérialistes de ce monde. Frères et sœurs, mes bien-aimés, lorsque nous parlons des choses profondes, nous parlons de la mort. Toi et moi, nous avons une pensée juste de la mort. Ah, ce que tu sais, ce que tu connais, ce que tu comprends de la mort, les savants qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, qui ne sont pas régénérés, qui n'ont pas la vie éternelle, ils ne le comprennent pas. Et vous devez savoir que votre compréhension est supérieure à la leur. Ah. Vous avez une compréhension de Dieu que les savants de ce monde qui n'ont pas Christ ne comprennent pas. Vous avez une compréhension de l'homme. Hein? Vous avez accès à la vision de Dieu de l'homme, à l'anthropologie humaine de l'homme. Vous avez une connaissance de Dieu que le plus grand savant qui n'est pas régénéré par l'Esprit de Dieu ne possède pas. Parce qu'on parle des choses profondes, c'est de ça qu'on parle. Dieu, la mort, le péché, l'homme, la justice, la sainteté, le ciel, l'enfer, l'éternité, le temps, la création. Vous avez une intelligence spéciale, céleste, divine, spirituelle, pour avoir une compréhension juste de ces choses-là et d'autres choses encore que je n'ai pas nommées, frères et sœurs. Même chose pour les relations, même chose pour beaucoup d'autres bénédictions encore, d'autres choses encore que je ne saurais nommer, mes frères et mes sœurs. Encore une fois, on n'est pas dans la théorie, on est dans le pratico-pratique. Vous êtes des hommes intelligents parce que vous êtes l'Église du Seigneur. Vous êtes l'habitation de l'Esprit de Dieu. Cela ne se peut que tu comprends tout de la même manière que tout le monde, incluant ceux qui ne sont pas sauvés. Impossible. Ce n'est rien. Ce n'est pas rien. Saint Paul parle de la sagesse des choses de Dieu, frères et sœurs. Et je viens d'en glisser un mot. Nous y reviendrons, Dieu voulant, quand nous étudierons un autre aspect de l'étude. C'est promis. Je reviendrai sur la sagesse. Si Dieu me prête vie d'ici là. Pour sa part, frères et sœurs, le terme dans l'original qui traduit intelligence, phronesis, ce terme fait référence ou bien désire la compréhension pratique. On parlait tout à l'heure de connaissance, de compréhension profonde, s'agissant de la sagesse. Et ici, s'agissant de l'intelligence, nous parlons de compréhension pratique. Compréhension pratique des besoins, des problèmes, des principes, et j'en passe, de la vie quotidienne. Un homme intelligent, c'est un homme qui comprend selon Dieu les besoins, les problèmes et les principes de la vie quotidienne. Un homme sage du point de vue évangélique, ah, c'est quelqu'un qui a les connaissances, une compréhension juste et profonde des choses telles celles qu'on a nommées tout à l'heure. Et voilà pour un homme, une femme intelligente, intelligente, frères et sœurs. Eh bien, l'intelligence, c'est la sagesse spirituelle dans les affaires de tous les jours. Frères et sœurs, rendez-moi fou ou sage. Ceux qui ne reconnaissent pas que le Dieu éternel, tout-puissant et trois fois saint existe et qui par conséquent ne le servent pas, ne l'adore pas, ne le vénère pas, ils n'ont pas la moindre idée des choses qu'on a nommées, frères et sœurs, mes bien-aimés. Aucune idée. Ils n'ont la moindre idée de la bénédiction de Dieu, frères et sœurs. Mais nous, Dieu nous fait la grâce d'avoir la connaissance profonde de ces choses. Le Christ a dit, je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Gloire à notre Dieu. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Lorsque l'Éternel Dieu ôte le péché, frères et sœurs, il ne nous laisse pas dans un vide spirituel, non. Nous sommes spirituellement remplis de sagesse, de compréhension, frères et sœurs. Nous ne sommes pas dans un vide moral. Nos choix moraux sont clairs. Nos choix intellectuels sont clairs parce que nous sommes capables de découvrir les choses par l'éclairage du Saint-Esprit de Dieu. Dieu nous les révèle de par la sagesse et l'intelligence qu'il nous donne pour connaître ces choses et appliquer cette connaissance, cette compréhension à la vie de tous les jours, frères et sœurs, mes bien-aimés. Cela nous amène tout droit à parler, en suivant le raisonnement de l'apôtre Paul, du plan de Dieu que Paul assimile à un mystère. Ce que je viens de dire par rapport à la sagesse et à l'intelligence nous amène à parler un peu plus en détail sur le plan de Dieu que Paul considère comme étant un mystère, que Paul définit, que Paul décrit comme un mystère. Peut-être que vous vous posiez la question en disant que je vous ai annoncé que Dieu nous met au parfum de son plan et je commence à parler de sagesse et d'intelligence. Mais je vous ai dit aussi que la sagesse et l'intelligence, ce sont les voies d'accès à la compréhension de ce plan. Dans la pensée de Paul, frères et sœurs, le mot mystère, quand il dit nous faisant connaître, verset 9, le mystère de sa volonté, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, le mot mystère ici ne fait pas référence à une énigme, à quelque chose qu'on n'est pas capable de comprendre, à un secret ésotérique, inexplicable, inaccessible à la pensée ou bien à l'intelligence ou bien à la rationalité humaine. Ce n'est pas ça le mystère ici. Le mystère, quand Paul dit, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, en parlant de Dieu qui nous fait connaître le mystère de sa volonté, frères et sœurs, l'apôtre Paul parle de quelque chose, c'est-à-dire d'une vérité à laquelle on ne peut pas accéder autrement que par révélation de Dieu. Un mystère ici, c'est quelque chose qu'on ne peut accéder que par la révélation de Dieu, la révélation spéciale de Dieu, frères et sœurs. Paul parle de mystère ici quand il dit au verset 9, Éphésiens 1er, nous faisant connaître le mystère de sa volonté, il parle, eh bien, d'un fait qui est longtemps caché ou qui a été longtemps caché et qui est finalement mise en lumière, mise en évidence, mes frères et mes sœurs. J'ai déjà dit dans la congrégation qu'il y a plein de choses que Abraham ne comprenait pas. Il y a plein de choses que David ne comprenait pas. Il y a plein de choses que Moïse ne comprenait pas, eh bien, quant au futur, quant à la forme que prendrait l'Église, quant à la manière dont le Christ mourrait, quant à la manière dont le Christ ressusciterait, quant à la manière dont la Pentecôte aurait lieu, etc. Voyez-vous? Donc, les éminents serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament, ils ne comprenaient pas autant que nous, le plan de Dieu, frères et sœurs, ce plan que Dieu nous révèle maintenant à la suite de Paul, nous l'avons dans Éphésiens et dans d'autres épîtres encore, frères et sœurs. Pour l'apôtre Paul, comme pour nous, à sa suite, tout est devenu clair, contrairement à d'éminents hommes et femmes de Dieu pour lesquels le plan de Dieu n'était pas si clair. Ils vivaient dans la foi, ils vivaient par la foi, ils vivaient dans l'attachement, dans la confiance, dans la dépendance à Dieu, mais il y a de ces choses par rapport au plan de Dieu que Dieu a tracé dès avant la fondation du monde, son plan de salut en particulier, qu'il ne connaissait pas, qu'il ne saisissait pas. Mais nous, à la suite de Paul, ces choses sont devenues plus claires pour nous, frères et sœurs. Et l'apôtre Paul considère cela comme étant une bénédiction spirituelle. Il n'y a pas que l'adoption qui est une bénédiction spirituelle importante. Il n'y a pas que l'élection qui soit une bénédiction spirituelle importante. Il n'y a pas que le pardon de nos péchés qui soit une bénédiction spirituelle importante. Il n'y a pas que la rédemption qui soit une bénédiction spirituelle importante. L'accès à la découverte, à la compréhension, à la saisie du mystère, c'est-à-dire du plan caché de Dieu, eh bien, c'est une énorme et grande bénédiction pour laquelle nous sommes appelés à rendre grâce à Dieu, comme c'est le cas pour toutes les autres bénédictions que j'ai déjà mentionnées et pour d'autres qu'on n'a pas le temps encore de mentionner, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et au verset 10, l'apôtre Paul nous dit pourquoi Dieu a fait tout cela. Pourquoi Dieu a fait toutes ces choses? Il nous a révélé son plan. Pourquoi il nous a bénis de toutes ses bénédictions spirituelles, élus avant la fondation du monde, nous prédestinés et à l'adoption, nous rachetés par son sang, nous comblés de son pardon, de sagesse et d'intelligence. Au verset 10, Paul dit, pour mettre ce plan, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Avec le verset 10, nous avons un complément circonstanciel de but. Voilà pourquoi Dieu a fait toutes ces choses. Gloire à notre Dieu. Dieu a racheté les hommes afin de réunir toutes choses en Christ. Gloire à notre Dieu. Dieu réunira, nous avons étudié l'Apocalypse ensemble, Dieu réunira toutes choses en Christ à quel moment? Oui, c'est dans le futur, mais à quel moment? Nous l'avons dit. C'est dans le royaume millénaire. Hein? Ce royaume millénaire qu'on a dit, qu'on a vu, qui viendra lorsque les temps seront accomplis. Dieu réunira toutes choses en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé. Lorsque cette histoire qui court là, lorsque l'histoire arrivera à sa fin, lorsque l'histoire parviendra à son terme, lorsque le royaume terrestre de Dieu viendra s'établir à Jérusalem, lorsque l'éternité recommencera ou commencera à recommencer, parce que vous et moi, nous avons vu que l'éternité va commencer à recommencer à partir, eh bien, de la session du fils de David sur le trône de David. Et ultimement, Dieu réunira toutes choses en son fils bien-aimé lorsque la nouvelle terre et les nouveaux cieux seront établis, frères et sœurs. Et la parole de Dieu nous laisse croire qu'il y aura une réunion de toutes choses en Christ, c'est-à-dire les choses qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Laissez-moi vous dire, Jésus-Christ de Nazareth est l'auteur de l'histoire, il est le but de l'histoire. Et ce n'est pas étonnant que cette histoire se termine avec lui, avec sa présence. Le paradis perdu en Adam sera retrouvé en Christ. Ainsi sera le début de la nouvelle ère, le début de la nouvelle histoire, le début du nouveau temps, mes frères et mes sœurs. À ce moment-là, la parole de Dieu nous fait savoir que, au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Voilà la réunion. Tout genou fléchira. Un aspect de la réunion. Tout genou fléchira dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera en ce jour-là, au jour de cette réunion, des choses qui sont en haut et de celles qui sont sous la terre. Confessera que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Philippiens 2, verset 10 à 11. Le Christ est appelé, frères et sœurs, par Dieu le Père, à unir l'univers tout entier. L'univers n'est pas uni. L'univers est loin d'être uni aujourd'hui. Vous le voyez autour de vous. Vous vous avez entendu prier tout à l'heure. L'univers est déchiré. L'univers est déchiqueté. L'univers est brisé. L'univers est corrompu. L'univers est fracturé. L'univers est en désordre. L'univers est souillé par le péché. L'harmonie que Dieu a introduite dans l'univers à la création, cette harmonie-là est dérangée. Cette harmonie est fracturée. Cette harmonie est mise à mal par le péché, par la désobéissance d'un homme et d'une femme. Et à la suite d'eux, eh bien, d'une infinité d'hommes et de femmes. Mais sachez qu'un jour viendra où Dieu réintroduira l'ordre dans l'univers. Lorsqu'il réunira, eh bien, toutes choses en Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, frères et sœurs. En ce temps-là, Satan ne sera plus reconnu comme étant le prince de ce monde, mes frères et mes sœurs. Au contraire, il sera jeté dehors, selon Jean chapitre 12, verset 31. Satan et ses démons seront jetés dans l'abîme durant le millénaire. Tout d'abord, il sera relâché, on avait vu, pour un temps, un peu de temps, puis jeté éternellement dans l'étang de feu et de soufre. Apocalypse 20, verset 3 et 10, tout ça fait partie de la réunion en Christ de toutes choses, celles qui sont dans les cieux et sur la terre, frères et sœurs. Il y aura en ce temps-là, en ce temps de réunion de toutes choses, dans les cieux et sur la terre, à commencer par le royaume millénaire. Le mal ne sera plus. Le mal sera effacé, frères et sœurs. Et Dieu établira l'unité dans son monde. C'est là l'oratoire, l'Église du Seigneur, le but principal de l'univers en Jésus-Christ de Nazareth. Laissez-moi vous dire ce soir, l'histoire n'appartient pas à vos ennemis. L'histoire n'appartient pas à vos persécuteurs. L'histoire n'appartient pas à ceux qui vous font, qui veulent vous faire du mal, qui vous en veulent du mal, du pire. L'histoire appartient à Dieu, mes frères et mes sœurs. Vivez sans crainte, vivez sans peur du lendemain, parce que l'histoire appartient à votre Dieu. Si vous faites face à des zones de turbulence dans votre vie spirituelle, dans votre vie personnelle, dans votre mariage, dans vos relations, dans votre santé, si vous faites face à quelques turbulences dans vos finances, dans votre vie professionnelle, dans votre retraite, si la vieillesse vous fait la guerre, sachez que toutes ces choses n'ont pas le dernier mot sur l'histoire. Celui-là seul a le dernier mot sur l'histoire. Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, il est vainqueur de toutes ces choses. Il est vainqueur de l'enfer. Il est vainqueur du péché. Et il vous donne la victoire à vous, à sa suite, sur toutes ces choses. L'histoire est écrite par Jésus-Christ. L'histoire est dirigée par Jésus-Christ, celui-là qui l'a créé. Laissez-moi vous dire, malgré ce que nous voyons, que le diable peut orchestrer autour de nous. Laissez-moi vous dire, le diable n'a pas la souveraineté absolue sur l'histoire. J'en ai déjà parlé dans la congrégation. La souveraineté sur l'histoire appartient, revient à celui qui a créé l'histoire. OK? C'est lui qui assurera que ses plans, ses desseins, ses projets, sa parole, ses promesses, s'accomplissent au travers des manœuvres du diable, au travers des turpitudes, au travers des pierres que l'adversaire, l'ennemi, voudra vous lancer, l'oratoire, peuple du Seigneur. Le fait est que ce soir, le Dieu de l'Église, le Dieu fondateur de l'Église, le Dieu qui a donné son Église, qui a fait de son Église, Église, le fait est que ce Dieu a établi un plan merveilleux dès avant les temps éternels, dès avant la fondation du monde. Dans l'éternité passée la plus absolue. Et ce Dieu est en train d'accomplir ce plan au moment même où je respire là, au moment même où j'enseigne là, au moment même où je prêche la parole là, au moment même où vous écoutez, Dieu est en train d'accomplir son plan. Dieu est en train d'accomplir son plan quand vous vous couchez, quand vous vous endormez. Dieu est en train d'accomplir son plan, frères et sœurs, mes bien-aimés. Et ce plan, lorsque les temps seront accomplis, Dieu rendra l'accomplissement de ce plan parfait en son Fils bien-aimé, en qui ce plan fonctionnera éternellement dans une harmonie parfaite de gloire, de justice, de vérité, de renouvellement, de félicité, de joie parfaite. Mes frères et mes sœurs, et si j'étais avec vous en présentiel, je vous regarderais penser aux noces de l'agneau, mes bien-aimés. Je commence l'application. Bon, en fait, je poursuis l'application. Dieu prend des morts spirituelles. Avant notre conversion, nous étions morts spirituellement. Et Dieu nous communique la vie nouvelle, la vie éternelle, la vie sans fin, donc. Dieu nous a pris, nous qui sommes conçus dans le péché et nés dans l'iniquité, il nous a rendus conformes à l'image de son Fils. Voilà ce qu'est l'Église. Dieu nous a saisis, nous qui étions les captifs du diable. Nous qui étions les captifs du péché et des conséquences du péché, ultimement de la mort. Il nous a introduits dans sa famille éternelle. Dieu nous a choisis, nous qui étions pauvres, démunis, désemparés, estropiés. Il nous a transformés, faisant de nous des co-héritiers de Jésus-Christ. Dans l'élection, l'oratoire, dans l'adoption, l'oratoire, dans la rédemption et la rémission, l'oratoire, dans la révélation, l'oratoire, Dieu s'est révélé à ses ennemis, à ses pires ennemis. Et il leur a donné un cœur nouveau, un cœur rempli d'amour pour lui, un cœur rempli de passion pour lui. Dieu s'abaisse vers son Église, ses créatures rebelles par nature, et il a produit en elles le vouloir, la gloire à Dieu, et le faire, le vouloir aimer, le faire aimer selon son bon plaisir. Par sa puissance irrésistible, frères et sœurs, Dieu nous a transformés, nous pécheurs, en saints. Nous, ennemis, en amis. Nous, esclaves de Satan, en enfants libérés et obéissants. Voilà pourquoi, frères et sœurs, quand nous contemplons toutes ces grâces de Dieu, quand nous contemplons toutes ces bénédictions de Dieu, il nous est difficile de ne pas servir Dieu. Il nous est difficile de ne pas aimer Dieu en retour. Il nous est difficile de ne pas bouder le péché, de ne pas lutter au mal, au péché, à l'orgueil, à l'injustice, au mensonge. Il nous est difficile, quand nous contemplons ces bénédictions spirituelles, Il nous est difficile de ne pas être fous pour Dieu, frères et sœurs. C'est difficile de continuer à pécher volontairement, frères et sœurs, à planifier le péché, à orchestrer le péché. C'est difficile de ne pas venir à l'église, d'être hypocrite avec l'église. C'est difficile. C'est difficile d'être un pied en dedans de l'église, un pied dehors de l'église. C'est difficile. Quand nous sommes régénérés, quand nous pensons à ces bénédictions-là, c'est difficile de ne pas être entier avec ce Dieu-là. De ne pas être intègre. Intègre, entier, ça veut dire intègre. De ne pas être comme Job, comme Noé avec ce Dieu-là, comme Abraham avec ce Dieu-là. C'est difficile, frères et sœurs. Soyez bénis. Amen.